Bari yu bai diri di bai yam da dam bum 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 mori dum mori dum mai du bai dilam ay 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 skibi bim bam bim bum bum bim bum bum.
Le Yiddish aujourd'hui. Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualités. Avec Astrid Ruf et Annette Fern. Bonjour Astrid.
Bonjour Annette. Alors, de qui on s'occupe aujourd'hui ?
Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler d'un écrivain journaliste, Abraham Kahan, dit Abe Kahan. Alors, pourquoi ? Parce que c'est à l'occasion de la parution d'un livre en français qui s'appelle « Le petit fiancé, récit du ghetto de New York ». Qui a été traduit par Isabelle Rosenbaumas, qui est la maman d'Eleonor Bielzuski, la chanteuse. Voilà, Isabelle Rosenbaumas est une yiddishisante et quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la culture américaine juive. D'ailleurs, elle vit actuellement à New York, à Brooklyn. Ouais. Nous avons eu une rencontre avec elle par Zoom, où elle nous a un peu expliqué ce livre. Et donc, c'est en fait traduit de l'américain, c'est-à-dire que ce Abraham Kahan a écrit en yiddish, mais il a aussi écrit en anglais, et donc cette traduction est à partir de l'anglais. Alors aujourd'hui, on va consacrer notre première émission plutôt à Abraham Kahan, le journaliste, le fondateur en particulier du célèbre Forwards. Et puis, la prochaine fois, nous parlerons plus précisément de ce livre, donc « Le petit fiancé », aux éditions Zoé. Alors, Abraham Kahan est né en 1860 en Lituanie. Il a eu une éducation religieuse, Reder, ensuite Yeshiva, mais très tôt, il a eu des idées socialistes et il faisait partie du mouvement de ceux qui vont vers le peuple. Hein, c'est, voilà, donc, il a fait aussi des études de russe. Et très jeune, en fait, parce qu'il a commencé à avoir des problèmes avec le tsarisme, puisqu'il faisait partie de mouvements révolutionnaires, il est parti aux États-Unis. Donc, il est déjà parti à 22 ans. Très vite, on peut dire qu'il y a eu deux choses qui étaient importantes dans sa vie. D'abord, le socialisme. Donc, à peine arrivé, un mois après son arrivée aux États-Unis, il a assisté à un meeting socialiste. Et un mois plus tard, il prononce son premier discours socialiste en yiddish. Mmh. Voilà. Donc, c'est vraiment... c'est quelqu'un qui était extrêmement intelligent et rapide. Hein, c'est-à-dire, il a appris très vite l'anglais. Il savait, bien sûr, l'hébreu. Il savait le yiddish. Et le russe, voilà. Donc, il avait vraiment une culture très, très diverse. Et il s'est très vite intégré aux États-Unis. Il a d'ailleurs donné des cours d'anglais aux émigrants yiddish qui arrivaient. Et il avait aussi ce côté très socialiste. Donc, il a, par exemple, encouragé les femmes à utiliser le travail et l'éducation pour élever leur statut dans la société. Donc, très moderne. Alors, dès son arrivée en Amérique, il écrit des articles sur le socialisme pour divers journaux. Et il fonde donc le Forward, donc The Jewish Daily Forward, en yiddish Forwards, en 1897. Alors vraiment, on est là dans les années très intéressantes, juste avant 1900. Donc c'est à la fois la fondation du Bund, c'est le mouvement socialiste juif, c'est la fondation du mouvement sioniste, et c'est aussi le Forward. Alors, il a donné à ce Forward vraiment un grand essor. Et après le pogrom de Kishinev en 1903, c'est là qu'il a vraiment pris la direction du Forward, parce qu'au début, il était avec d'autres personnes. Alors, il a dirigé ce journal donc de 1903 à 1946. Il est mort en 51, 91 ans. Donc, ce Forward était un journal qui avait au début 6000 lecteurs et il a réussi à le développer jusqu'à ce qu'il ait plusieurs centaines de milliers de lecteurs. Donc, c'est un journal en yiddish, mais qui abordait vraiment qui avait une très large, qui s'intéressait à beaucoup de choses, voilà. C'était pas seulement la vie juive, mais aussi il avait des reporters dans le monde entier, s'intéressait vraiment à tout ce qui se passait dans le monde, et avec une orientation très socialiste. Et donc c'est pour ça qu'il a eu tellement de succès, parce que les journaux d'avant étaient plutôt des journaux traditionnels. Plus religieux, plus conservateur, alors que lui a vraiment introduit la modernité dans le monde yiddish et dans le journalisme yiddish. Et donc, il a énormément développé ce journal, voilà, il a par exemple eu une grande influence pour les journalistes qui vivaient en Pologne et dans l'Europe de l'Est, qui envoyait des reportages au Fort Vert et des photos. C'était aussi un des premiers journaux à avoir des photos. Et ça leur a permis de vivre. Donc, il a fait vivre tout un groupe de journalistes qui étaient restés en Europe de l'Est. Mmh. Et en Amérique, il a édité aussi de grands auteurs en nouvelles, donc Opa Toshu, Yud Yudzinger, Israël Yeshua Zinger, et bien sûr Bashevis Zinger, qui ont écrit énormément pour le Fort Vert. Alors, il avait une orientation très anglophile, on peut dire. C'est-à-dire, il avait un peu l'idée que le yiddish devait évoluer vers l'anglais. Un peu comme à une période, on pensait que le yiddish devait évoluer vers l'allemand. Mais ça, c'était plus tôt. Et donc, il demandait aux auteurs de mettre beaucoup de mots anglais dans le yiddish. Et certains auteurs ont tout simplement refusé. Et alors, il refusait de les éditer. Hein. Il était très, très autoritaire, quoi. Et puis, donc, Isabelle Rosette Beaumas cite quelque chose d'assez amusant, c'est-à-dire que dans une des rubriques, ça s'appelait dit Cédré, donc c'est la portion hebdomadaire de la Torah lue à la synagogue, il le signait Der Proletarischer Magid, le prêcheur prolétarien. Et il commentait les faits et gestes des personnages bibliques en traquant les parallèles et la similitude de leurs actions avec les capitalistes de leur temps. Par exemple, dans son exégèse du chapitre 47 de la Genèse, en 92, il compare les agissements de Joseph au moment de la grande famine qui va sévir sur l'Égypte aux manigances du capitalisme sanguinaire qui exploite le prolétariat en spéculant sur le prix des matières premières. Voilà. Et donc, il voit dans cette portion de la Bible la genèse de tout le capitalisme, der Jahresbrief und ganzen Kapitalism. Voilà, donc il reconnaît dans cet épisode les mêmes caractéristiques à l'époque où l'auteur du Capital dénonçait la spéculation qui transformait paysans et fermiers endettés en prolétaires urbains et ouvriers agricoles saisonniers. Voilà, vous voyez un petit peu comment il interprétait la Bible. Voilà, donc il a eu aussi une carrière littéraire, mais dont nous parlerons peut-être la prochaine fois. Parce que là, on va s'intéresser à une rubrique très très importante du Fort Vert. Ce sont les lettres des lecteurs que les lecteurs envoyaient au Fort Vert et les réponses qu'ils faisaient. Et ça a eu énormément de succès. On va peut-être écouter une musique avant de commencer à lire, peut-être.
Oui, on va écouter, alors ce n'est pas du tout de la même époque, c'est moderne, enfin relativement moderne, c'est 1998, c'est le fameux Michael Alpert, qui est vraiment une des stars du renouveau de la culture klezmer dans ces années. Enfin, lui, il a commencé avant 1998, il est parmi les premiers, il a dû commencer en 70-75, Brave Old World. Alors lui, donc Michael Alpert, j'ai souvent parlé de lui, grand connaisseur, chanteur, violoniste, linguiste, le spécialiste aussi linguistiquement, quoi. Il connaît tous les dialectes et il sait les prononcer. Et là, j'ai trouvé quelque chose de très intéressant. C'est un peu une Bienvenue. Enfin, il y a deux titres qui se suivent, Bienvenue et puis un autre morceau où il est, c'est un petit peu une reprise de du Batren, mais il a, c'est lui-même qui a écrit le texte, mais dans le style du Batren, un peu traditionnel, avec un texte pourtant amusant où il présente en yiddish ses comparses et lui-même, et après suivi d'une autre musique. Chanter aussi deux plages de ce CD qui s'appelle Blood Oranges, orange sanguine.
Ah oui, d'accord.
Carrément, par le Brave Old World.
Aïe, 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 Wir verbeten euch Patrioten von der jüdischen Weltmusik, mitzumachen mit uns an Isien, a guter Show. Über jüdische Welt lachen andere Dimensionen, noch im Ganzen und im Internet CD-RAM und Fiber-Optik-Telefonen. Zu der Reihen spielen wir Sticklach, Idische, Heimische, Irsidische, langsame, schnelle, moderne, traditionelle. Lekommen unser teure Sprach, von gesundem Leben soll sie genießen als Sach. Und ich komme die bereite Welt von Klezmereien, Naches in den Frieden lebt sich in der Hör aufs Nei. Ist Hevre Klezmer schon gegräht und gegangen in gesunde Reit. Shalom aleichem, teure Freund. Anaye min Simche wird schon sein bei uns heim. Darum bet ich dir, Rebdel, mit ein Pfeifjolki. Sollst du ein Spiel, ein Stichal jüdische Negina, sei grün wie ein Dubna, sei hech wie ein Jolki. Schingu bekannt. Sein Rimm geht über die ganze Welt von Land zu Land. Noch mit ihm spielt jetzt der Hevra Avajne, Hotstedt kein Gräsi. Reb Schmielke, Reb Avreim, Olanan Jakob und Reb Messi. Thank you.
voilà, donc après cette musique, on va donc lire des extraits de ces lettres envoyées au rédacteur du Forward, donc au célèbre Abbé Kahan, et qui ont été éditées en français.
Oui, c'est un recueil absolument passionnant qui s'appelle « Estimable rédacteur en chef ». Donc c'est la manière dont les gens s'exprimaient en écrivant donc, à ce Abbé Kahan. 60 ans de lettres d'immigrés juifs en Amérique. C'est vraiment un livre extraordinaire, je vous le recommande chaleureusement, au seuil. 60 ans de lettres, donc un choix évidemment, parce que le livre n'est pas si épais que ça, il fait quoi, 200 pages, un peu 250, mais il y a plein de lettres sur 60 ans, soigneusement choisies, avec peut-être pas la réponse intégrale qu'a donnée Abbé Kahan, mais... probablement, enfin, il n'y a pas la réponse pour toutes, et quand il y a, c'est relativement court. Et on voit effectivement, si on analyse également les réponses, son désir d'intégration, parce que les gens demandent conseil et ils disent « Dites-moi quoi faire, je vous écouterai. » C'est incroyable, quoi. Ils prennent ce pauvre Abbé Kahan pour un vrai reb. Oui. il s'est dit d'ailleurs dans l'introduction « Je vous écouterai quoi que vous disiez, etc. » Et souvent, on leur dit, suivant de quoi il s'agit, évidemment, si par exemple quelqu'un se plaint parce que ses parents ne parlent que le yiddish et n'apprennent pas l'américain, alors il dit ben si, poussez un petit peu vos parents à apprendre l'anglais, c'est important aussi pour leur intégration, etc. Mais bon, il y a tellement de choses très différentes. Alors je vais en lire un qui a un rapport un petit peu avec le roman dont on va parler la semaine prochaine, qui s'appelle Le Petit Fiancé. Voilà, c'est aussi une histoire de fiancé. Cher rédacteur en chef, je suis née en Amérique, donc c'est une femme qui écrit. J'ai reçu de mes parents une bonne éducation. J'ai étudié le yiddish et l'hébreu, j'ai terminé le lycée, j'ai suivi un cours de comptabilité et j'ai maintenant un bon job. J'ai de nombreux amis et plusieurs garçons m'ont déjà fait des propositions. Récemment, je me suis rendue dans la ville natale de mes parents, en Pologne russe. L'endroit était très vivant. Il y avait de nombreux mouvements de jeunesse et associations culturelles et tous m'accueillirent avec chaleur, me regardèrent avec considération. Oui, j'aurais dû souligner que elle écrit en 1907, cette jeune femme. Après tout, j'étais citoyenne du pays de la liberté, l'Amérique. Parmi les responsables sociaux de la communauté, il y avait un jeune homme intelligent qui m'emmena à diverses réunions. Il était plein d'attention pour moi et après quelques temps, il me déclara son amour dans une longue lettre. J'avais remarqué que je ne le laissais pas indifférent. Je l'aimais bien en retour. Je le respectais comme faisaient tous les autres. Ma famille eut vent de la chose et quand ils me parlèrent de lui, ils pensaient visiblement que c'était un bon parti. Il était beau, intelligent, cultivé, brillant causeur et il me charmait. Pourtant, je ne lui ai pas donné une réponse définitive. Quelques mois plus tard, nous allâmes aux États-Unis retrouver mes parents qui le reçurent comme leur propre fils. Mon fiancé se mit aussitôt à apprendre l'anglais et tenta de s'accommoder à sa nouvelle vie. Cependant, quand je le présentai à mes amis, ils furent déçus en le voyant. « Quoi ? Ce Greener est ton fiancé ? » s'étonnèrent-ils. J'eus beau leur dire quel rôle important il jouait chez lui, combien chacun là-bas le respectait. Ils me regardaient comme une folle et raillaient mes paroles. Au début, je me suis dit « Laissons-les rire, quand ils le connaîtront mieux, ils en parleront différemment. » Un peu plus tard, cependant, leurs propos m'ont affecté et j'ai commencé à penser comme eux qu'il était vraiment un greener et agissait comme tel. Bref, mon amour pour lui est en train graduellement de se refroidir. En Europe, où il faisait l'admiration de tous et où toutes les filles m'enviaient, il paraissait différent. Mais ici, c'est une autre personne que j'ai devant moi. Je n'ai pas le courage de lui parler et n'ai pas même le cran d'en parler à mes parents. Lui continue de m'aimer de tout son cœur et je ne sais que faire. Tout cela me remue beaucoup. Je vous prie de me venir en aide et de me donner un conseil dans ma situation désespérée. Respectueusement, une lectrice soucieuse. La oui. Pauvre. Il y a de quoi de se faire du souci, effectivement. Ceci dit, je vais quand même vous lire, parce que vous avez quand même envie de savoir ce qu'il a répondu comme réponse, le Abbé Kahan. L'auteur, alors on parle toujours à la troisième personne. L'auteur de cette lettre commettrait une grave erreur si elle devait se séparer maintenant de son fiancé. Elle ne doit pas perdre le sens commun et se laisser influencer par les opinions imbéciles de ses amis qui divisent le monde entre greener et vrais américains. Nous pouvons lui assurer que son fiancé apprendra vite l'anglais, il connaîtra l'histoire et la littérature américaine aussi bien que ses amis et deviendra un meilleur américain que. Elle devrait être fière de son amour et rire de ceux qui l'appellent un green.
Voilà, donc là, on voit comment il est très énergique. Hein.
Il se permet de donner des avis.
Il ne lui dit pas de décider elle-même, il lui dit exactement ce qu'elle doit faire. Et puis aussi cette idée, effectivement, d'intégration. Bon, je crois que c'est vraiment son expérience personnelle. Hein. C'est-à-dire, il arrive aux États-Unis et quelques mois après, il fait déjà des discours en anglais. Donc, il ne voit pas pourquoi les autres...
Et ce jeune homme lui ressemble peut-être un petit peu. Quoi. C'est un jeune homme qui sait parler, qui est politisé, qui est... Oui. Il lui ressemble peut-être un petit peu. Donc, ne vous faites aucun souci, il va s'intégrer très vite. Ouais. Non, c'est quand même étonnant comment... C'est vrai, si on compare avec le courrier des lecteurs aujourd'hui, moi, je lis le courrier des lecteurs de Féminin. La personne qui, c'est une femme qui donne des conseils, elle dit toujours réfléchissez vous-même, la réponse est en vous, etc. Ouais. Elle renvoie les gens à eux-mêmes, à leur solitude finalement, parce que s'ils écrivent, c'est qu'ils veulent que quelqu'un leur donne un conseil. Il ne fait pas ça, lui.
Ah non, là, on peut dire qu'au moins, on a une réponse claire, précise. Oui. Hein, et, enfin, en plus, avec, dénigre les amis, qui sont des imbéciles.
Imbéciles, carrément,
il n'hésite pas. Alors, est-ce que tu veux nous faire entendre une autre musique?
Oui, alors, je voulais faire entendre un classique de la chanson yiddish de cette époque, le fameux « Abrive le der Mamen ». Donc une autre situation, celle où la maman est restée encore dans la vieille Europe et le fils, en général un fils ingrat, n'est-ce pas, est parti en Amérique et il ne donne aucune nouvelle. Alors c'est une version un petit peu raccourcie que chante Efim Tchorny, ce très remarquable, il est d'origine moldave, n'est-ce pas, chanteur, musicien aussi, il écrit des chansons, il met en musique des textes, etc. C'est quelqu'un de très très intéressant, il vit en France maintenant je crois. Et là, elle a fait une version raccourcie. Il faut dire qu'elle est très longue et bien, bien mélo, quoi. Parce que lui, il va très bien, le fils. Il s'est marié, il a plusieurs enfants, il vit dans une belle maison. Et il a laissé sa pauvre mère, non seulement pauvre et malheureuse, mais encore sans nouvelles. Il ne lui écrit pas. Et après, elle écrit tout le temps. Elle écrit. Et puis finalement, il reçoit un beau jour une lettre de la maman restée au pays, et c'est enfin pas d'elle, mais de sa voisine, qui lui annonce le décès de cette mère, histoire de le culpabiliser un petit peu jusqu'au bout. Mais lui, il va pas si loin dans cette chanson, c'est juste, il donne qu'une strophe, et c'est très joliment chanté, de manière très simple, et accompagné à la guitare. Donc voilà Efim Tchorny qui chante « Abrive le der Mamen ».
Mein King, mein Trist, du forst avec זה זי עזין הגיטר, איך בית הינטרן און הינשרק, דיין ליבה, דיין טיירה מוטר. דו פורסט מיין קינד, מיין אין און אינצי קינד, הריבר וייטה ימן. תוקי עם מיין, נור פריש ונגיזינד, Und nicht vergess dein Mamen. Zum Gesind und mit Glück, da jede Woche ein Briefel schick. Dein Mames Herz, mein Kinderquick. A Briefele der Mamen, sollst du nicht versammen. Schreib geschwind, liebes Kind, Schenk ihr deine Chome, die Mama wird das Briefele lesen und sie wird genesen. Sie ist ihr schwer, ihr bitter Welt, der quick ihr deine Chome. La 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 la. Schreib geschwind, liebes Kind, Schenk ihr deine Chome, die Mama wird das Briefele lesen und sie wird genesen. Sie ist ihr schwer, ihr bitter Welt, a Briefele der Mamen.
Je vais pas lire une autre lettre, il y en a plein, hein, mais peut-être un petit peu ce que Abraham Kahn dit lui-même de ce Bintelbrief. Qu'est-ce que ça veut dire, Bintelbrief ?
Bintel, ça veut dire un groupe de... Parce qu'on dit aussi à Bintelblumen, c'est-à-dire un bouquet. Oui. Donc, un bouquet de lettres, oui, on pourrait employer ce mot en français aussi. Ouais.
Alors, comment il explique la nécessité dans laquelle il s'est trouvé d'ajouter à tout ce qu'il y avait déjà dans ce Vorwärts des informations internationales, comme tu l'as dit, mais même des photos, et toutes sortes de trucs réels. Pourquoi il a eu besoin de rajouter ce courrier des lecteurs ? Il écrit. Les gens ont souvent besoin de trouver l'occasion d'épancher leur cœur lourd. Au sein de nos masses immigrées, ce besoin est omniprésent. Des centaines de milliers de gens, arrachés à leur foyer et à leurs êtres chers, étaient comme des âmes en peine qui avaient soif de se confier, qui voulaient entendre un conseil pour résoudre leurs pesants problèmes. Le Bintelbrief constitua justement pour eux cette occasion. La plupart des lettres que nous recevons sont pauvrement écrites et nous devons les corriger ou les réécrire. Quelques-unes ne sont pas écrites directement par la personne qui demande un conseil, mais par quelqu'un d'autre qui le fait pour elle. C'est même devenu une activité particulière pour certains d'écrire des lettres pour ceux qui ne peuvent pas le faire, et peut-être rémunératrice aussi. Souvent, l'écrivain public se laissait aller à sa propre éloquence, et naturellement, nous y remédions. Oui, parce que ça, on a vu aussi que c'était toujours un peu... compassé comme ça, avec des formules toutes faites. Et...
Oui, alors ça me fait penser à quelque chose qu'on a étudié avec Natalia Krynitsa, ce sont les modèles de lettres, oui. Briefensteller, qui était très à la mode à un moment et où les gens qui faisaient ces recueils donnaient des lettres pour toutes les situations possibles, ouais. Justement s'adressant à des gens qui ne savaient pas écrire.
Ouais. Ça existait en français aussi, quand on était jeune, on avait vu ça. Je crois que notre mère collectionnait ce genre de trucs. Comment il faut écrire à un supérieur, à un pas supérieur, à un directeur, à un patron, ou des lettres d'amour, pareil, il y avait des modèles. Et de temps en temps, des hommes et des femmes se présentaient au service éditorial pour demander que quelqu'un écrive une lettre à leur place, à propos de leurs problèmes. Et puis à la fin, on voit, quand c'est après-guerre, quand c'est dans les années 50, des gens qui disent « je m'excuse, mais je ne peux pas écrire en yiddish », ils écrivent en anglais, ils s'excusent de ça. Voilà, l'inverse s'est passé quoi, au fil du temps. C'est 60 ans quoi, de lettres d'immigrés juifs, c'est vraiment exceptionnel sur l'intégration, les problèmes d'identité, les problèmes de mariage, quand les enfants, mon garçon il va très bien, il est formidable et tout, mais qu'est-ce qui me ramène à la maison ? Une chic, c'est la fin du monde. Il y en a un qui raconte que, ça vaudra la peine de le lire aussi, qu'il sort avec une chix et il est très heureux avec elle et tout ça. Si mes parents me disaient que se fâchaient vraiment très très fort et me disaient qu'ils ne veulent plus me voir de toute leur vie, à la limite je pourrais l'accepter. Mais qu'est-ce qu'ils font, ces parents, c'est vraiment affreux. Ils menacent de se suicider.
Bon, tous les problèmes sont possibles. Voilà, donc c'est effectivement ces juifs pris entre deux mondes, hein, voilà, ouais. Entre l'ancien monde et le nouveau monde. Et c'est ce que nous verrons dans le texte qu'on verra la prochaine fois, donc le livre Le Petit Fiancé. Et on vous dit à la semaine prochaine.
Shalom Aleichem et merci Lucas.
Le yiddish aujourd'hui. Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualités.
Avec Astrid Ruf et Annette Fern.